Les municipales 2008,
je m'y attacherai de toutes mes forces.
Et sont celles des Marseillaises et des Marseillais.
Voici donc le plateau réuni pour vous
à Marseille.
Municipal 2008 à Marseille.
Salut à tous, bienvenue sur La Grenouille dans notre thématique autour des élections municipales. Nous vous proposons une émission sur l'économie et le politique, ce couple qui connaît actuellement de grands succès. Pourtant, le premier employeur local n'est autre que la fonction publique, mais personne n'en parle. Comme s'il fallait jeter aux oubliettes cette image de Marseille, ville de fonctionnaires, pour rêver d'une métropole en adéquation avec les plaquettes Euromède.
Alors pour comprendre un peu mieux ce Marseille que les décideurs politiques et économiques locaux nous préparent, nous avons pris le parti de vous donner à entendre leur discours sur la longueur.
Allez, on vous emmène à la présentation de Constructa, un projet de plusieurs tours pour ériger un petit Manhattan à côté des docks, au bord de l'eau.
Ce matin-là, début février, la salle de l'hôtel de ville était pleine, remplie, non de journalistes, mais d'hommes d'affaires. À la tribune, entouré du maire Jean-Claude Gaudin et de son premier adjoint Renaud Muselier, le promoteur immobilier Marc Pietri venait vendre son lot de tours.
C'est de donner un futur à sa ville, sans renier son histoire, ni la culture, à une ville qui a 8000 ans, puisque vous savez que dernièrement on a découvert qu'elle avait 8000 ans. Alors, la tâche qui nous incombait, c'était de nous inscrire dans ce nouveau paysage en respectant les valeurs de la cité, en créant une identité pour que les Marseillaises et les Marseillais se l'approprient pour tenter de nous projeter dans le futur. Vous savez que c'est un moment important de notre vie. Il s'agissait dans ces territoires qui sont des territoires reconquis que de la Canebière en passant par la rue de la République, par la place de la Joliette, par la rue des Docks, par Euromède Center, jusqu'à la tour de Zaadi, de créer un courant, c'est-à-dire de créer une veine, de créer une circulation sanguine pour que la greffe prenne. Le deuxième principe, c'était le principe de la mixité. La mixité, c'est-à-dire bureau, logement, commerce, service public, crèche, c'est-à-dire d'essayer de donner une vie, car vous savez que ce qui compte, la ville n'est qu'un assemblage de bâtiments, mais c'est le lien culturel. Et c'est le lien entre les hommes qui fait que cette ville donne de l'animation et de la vie. Et Euroméditerranée, lui, nous a fixé des principes. Le premier, c'est la reconquête du port. C'est-à-dire que Marseille se mêlait à l'aune de toutes les grandes capitales du monde qui ont réussi à reconquérir leur port. Marseille est en train de reconquérir le port, et à partir de là, donc de rendre la mer aux Marseillais. La tour, c'est un élément d'urbanisme comme tout. Mais arrêtons de traiter l'urbanisme en disant des tours, des bars. Non, la tour, c'est un élément vertical d'urbanisme, mais la tour, vous devez considérer, c'est un arbre. Si elle n'est pas enracinée au sol dans la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens, la tour n'a pas de raison d'être. Et ce que nous avons créé avec l'Euroméditerranée, c'est cet espace, justement, cet espace de vie.
Avec vous, la vie peut repartir. La vie peut repartir
autrement, librement.
Avec vous, la vie peut repartir
autrement, librement.
Avec vous, la vie peut repartir.
Alors là,
Robert Vigouroux, ancien maire.
Vous savez, quand on voit ce qui s'est fait à Shanghai, bon, des tours, il y en a des quantités. À Hong Kong, il y en a des quantités. À Pékin aussi maintenant. Bon, les tours, c'est monnaie courante. Bon. On pourrait également faire une tour sur le forum à Rome, une chose possible, il y a un grand espace, on pourrait le libérer, là, et ça donnerait peut-être un aspect différent, moderne à la ville. Bon, au lieu d'être dans l'Antiquité comme elle l'est. Alors, Marseille, ces grandes tours, qu'est-ce qu'elles apporteront, je ne le sais pas, mais ça changera totalement l'aspect de Marseille, et en particulier l'aspect de la mer, le vieux port qui est merveilleux. Alors du vieux port, on verra les tours, elles sont suffisamment hautes pour ça, et quand on ira en bateau, je ne sais pas, Je ne pense pas que ça apporte quelque chose du point de vue économique. Je ne crois pas que ça soit le critère d'une grande ville, d'une ville à puissance économique, que d'avoir des tours. Parce que sinon, et d'ailleurs, c'est assez curieux de voir celui qui aura la plus haute.
Et alors, par rapport au projet Constructa ?
Oui.
Où s'en est Constructa ?
Alors, le projet Constructa est un très gros projet.
Jean-Louis Touré, troisième adjoint au maire, délégué à la finance et au développement économique.
Alors, le plus gros projet actuellement, celui-là, vous le voyez, c'est la tour de CMA-CGM. Ça, c'est du tangible, c'est du visible. Le projet Constructa est un projet qui est constitué de trois immeubles de grande hauteur, dont un très élevé, et puis d'un plus bas. Le projet est un tout. Les négociations de Constructa sont en cours. Et c'est pratiquement bouclé. Ce n'est pas totalement terminé, mais il y a une tour de M. Nouvel, il y a une tour de M. Pietri, de M. Lyon, et puis il y a un bâtiment plus bas. Alors celui-là, il est déjà vendu, il est vendu à la Banque Populaire Provençale et Corse, que j'ai en plus l'honneur de présider. Donc là, nous avons déjà acheté.
Le président d'Euromed et premier adjoint au maire, Renaud Muselier, à la présentation du projet immobilier Constructa.
Avec vous, tout peut réussir.
On l'a imaginé, ça. On l'a dit. Personne ne nous a jamais cru. Puis aujourd'hui, on le fait. Et tout le monde applaudit. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, ça, c'est le premier volet. Regardez d'où on vient, hein, au-delà de ces tours. Regardez d'où on vient, ce périmètre portuaire, industriel, difficile, abandonné, déstructuré, déshumanisé, sans habitat, ou un habitat délabré, ou de la République à l'abandon, 310 hectares en centre-ville. Plus d'accès à la mer, même pas visuel, des hangars, tout est vide, des autoroutes. Bon. Et quand il y avait les silos, les friches à belle-de-mer là-haut, abandonnées depuis combien d'années, où ils étaient partis, ils avaient tout laissé. Ben aujourd'hui, il y a trois pôles, un pôle culturel, un pôle cinématographique, et c'est là où on fait plus belle la vie. C'est là où on fait plus belle la vie. Et puis on s'est dit quand même qu'à cette rue de la République, comment on fait pour traiter cette rue de la République qui est à moitié vide? Et donc, il y avait cette dégradation permanente de cet habitat, et dans des immeubles haussmanniens, en plein centre-ville, c'était un des plus gros bidonvilles d'Europe, en plein cœur de ville. Et finalement, petit à petit, on a recousu cette ville, on lui a donné un projet sur ce périmètre, on s'est retrouvé avec un moteur de rayonnement de notre cité, et on a toujours dit, dès le départ, c'est fait pour et avec les Marseillais, et tout euro public investi doit susciter et générer 3 euros privés. Alors ça a donné la philosophie du système. Mais dans nos 300 hectares, c'était compliqué de mettre tout ça en place. Parce qu'il fallait abattre le J4, le J3, et ceci sans grève. Rappelez-vous, le climat de tension sociale importante. Et petit à petit, on a donné de la crédibilité, puisqu'on avait une réponse absolue à donner à des questions qui sont vachement simples. Où, quand, combien? Où je peux m'installer? Quand je pourrais m'y installer? Combien ça va me coûter? Combien ça va me rapporter? On a redonné confiance aux Marseillais eux-mêmes, et à l'extérieur, et aux investisseurs. Et on voit bien maintenant que nous avons Carta, Lyon, Saadid, Ricciotti, des Marseillais aussi, qui sont là, comme Tarazi. Et maintenant, avec cette énergie qui est tirée par CMA-CGM avec sa tour, et nous, notre rôle, là, donc, c'est de trouver la solution pour que le Marion puisse s'installer à côté et que M. Besson vienne s'y installer et de faire en sorte que toutes ces personnalités exceptionnelles puissent venir apporter à Marseille de l'argent, des logements, une qualité de vie.
Question, jusqu'où va aller ce développement?
Alors, jusqu'où, sans fin. On a aujourd'hui 310 hectares. Dans ces 310 hectares qui sont là, qui sont le cœur de Romel et un peu le cœur historique, culturel de la ville, on a, sur ces 310 hectares, d'ici 2012, tout rempli. Et donc, on a bien présenté la chose au national, et donc il y a 170 hectares supplémentaires qui arrivent derrière. 170 hectares derrière, alors nous travaillons déjà, en fait, sur Romel 2, qui nous permettra, fort du succès de Romel 1, et c'est pour ça qu'il faut que ça marche, que l'on puisse continuer à tirer.
Avec vous, la vie peut repartir. Avec vous, tout peut réussir.
Christophe Mas, candidat PS au municipal, est délégué au développement économique au Conseil général. Il travaille main dans la main avec la Chambre de commerce et d'industrie pour faire venir les investisseurs. Et qu'est-ce que vous pensez de Constructa ?
Qu'est-ce que je... Alors, je sais pas, non. Sincèrement, je n'ai rien à dire de M. Pietri, le PDG de Constructa. Non, je sais pas. Il a dit quoi récemment? Je sais pas.
Ah bah, il a dit que ça se matérialisait.
Bon, je n'ai pas de réponse particulière.
Si beaucoup ignorent encore ce projet, il n'empêche qu'il semble bel et bien lancé. Ces tours doivent venir jouxter celles de la CMA-CGM, qui grandit de jour en jour pour atteindre 147 mètres de haut. Et le but affiché de ce projet, vous l'avez compris, c'est de grandir l'image de Marseille. Patrick Menucci, candidat PS, est aussi d'avis que notre ville entre en compétition avec d'autres, même s'il prend un malin plaisir à rappeler la polémique sur l'installation à Marseille du 3e armateur mondial Jacques Saadé.
Marseille est en concurrence dans le monde avec d'autres villes. Elle est d'abord en concurrence avec Lyon, avec Montpellier, avec Nantes, avec Bordeaux. Elle peut être aussi en concurrence avec Barcelone, avec Gênes. Ça veut dire quoi la concurrence? Ça veut dire que quand vous avez des entreprises qui veulent venir s'implanter par exemple dans le sud de l'Europe, bah, ils ont plusieurs choix. Le problème que nous avons à Marseille, c'est que nous avons une municipalité qui attend que ça tombe du ciel. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de concurrence. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a vu Jean-Paul Gaudet faire le VRP, c'est-à-dire le représentant de commerce de Marseille? Quelle est la grande entreprise qui s'est installée à Marseille depuis... Non, je sais que vous alliez me dire ça. Mais non, mais CMA ne s'est pas installé à Marseille. CMA a été dénationalisé dans des conditions particulièrement suspectes.
En fait, c'est Jean-Claude Gaudin qui a facilité la venue de la CMA-CGM à Marseille. Le maire actuel a raconté cet épisode aux auteurs de Gouverner Marseille, Michel Sanson et Michel Peraldi, en juillet 2003.
Saadé, d'abord gonflé, parce que Saadé est un Libanais. C'est moi qui vais instruire son dossier de naturalisation française. C'est moi qui lui ai fait faire sa naturalisation française.
Et vous étiez à quoi à l'époque?
J'étais déjà député.
Ah, c'est ça, comme député, d'accord.
Député ou sénateur.
Oui, c'est ça, d'accord, comme parlementaire. Quoi, d'accord.
Parlementaire. C'est moi qui lui ai fait obtenir la naturalisation française. D'accord. Ensuite, comme il adore Marseille, qu'il est introduit dans toute la bourgeoisie marseillaise assez largement, le mec un jour me dit, bon, mais Jean-Claude, c'est clair, je délocalise mon entreprise de Suresnes à Marseille. Entre nous, c'est le seul qui l'a fait. Alors, nous faisons quand même, Renaud et moi, une petite bêtise. C'est que, à un moment donné, il faut privatiser CMA-CGM. Mmh. Et que, bêtement, pour lui être agréable, parce que c'est un oriental, alors il ne comprend pas les choses. Bêtement, avec Renaud, nous écrivons à Pons ou à l'Elysée pour dire qu'il faudrait faciliter M. Saadé parce que c'est l'intérêt de Marseille, etc., etc. Bien entendu, ces deux lettres, nous les avons eues déjà deux ou trois fois dans le canard enchaîné. Car on n'aurait pas dû le faire. Parce que moi, je suis très ami avec Jean-Claude Béton. C'est le fondateur d'Orangina. Et Béton est très ami avec Saadé. Et de temps à autre, tous les trois, nous déjeunons ensemble. Et nous, spontanément, avec Renaud, on a fait ce genre de lettre pour dire au gouvernement il faudrait donner un coup de main à Saadé, et nous n'aurions pas dû le faire. Voilà, la vérité, c'est ça. Bon, c'est pas gravissime qu'on l'ait fait, parce que l'intérêt de Marseille, c'était aussi de venir installer 2000 employés à Marseille, que nous récupérions la taxe professionnelle, que tout parte depuis Marseille, etc. Donc tout ça a été quelque chose de très important. Mais nous avons fait une bêtise.
Contrairement au maire de Marseille, nous n'avons hélas pas eu le plaisir de déjeuner avec Jacques Saadé, car la CMA-CGM a refusé que nous le rencontrions.
Une chose est sûre, aujourd'hui, à gauche comme à droite, tous se félicitent du fait que le PDG de la CMA-CGM ait installé son siège social à Marseille.
Mesdames et messieurs, je vous parle en direct de Cannes. C'est un temps splendide et je vais vous présenter, bien entendu, quelques stars que tout le monde connaît bien. Ce sont tous nos héros et hommes au grand cœur. Ils sont tous là, mesdames et messieurs, beaux et bronzés à souhait. Ils sont là pour vous plaire. Bien entendu, ils sont accompagnés de quelques starlettes qui sont également au rendez-vous annuel. Elles sont toutes habillées par nos grands couturiers, d'ailleurs, je ne citerai pas leur nom pour leur faire de la publicité, vous savez que je n'ai pas le droit de le faire. Évidemment, ce ne sont pas des gens d'une approche très facile. Et je me doute, mesdames et messieurs, que vous aimeriez être plus au courant de leur vie privée. Alors, je vais essayer de leur poser quelques questions. Remarquez, ça va pas être très très facile. Remarquez, j'aperçois Monsieur Delon, là. Oh, vu la tête qu'il fait, ça va pas être facile. Hein. Je pense que ça sera même carrément impossible. Remarquez, je peux quand même vous dire qu'il est accompagné d'une blonde platine très distinguée, très, très bonne, enfin, très désirable. J'allais employer un mot.
Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce et d'industrie.
Il y a quelques très belles entreprises à Marseille. Bon, il y a bien entendu CMA-CGM, donc le troisième armateur mondial, qui a son siège ici, qui est une entreprise absolument extraordinaire, qui est en train de faire cette tour fameuse sur le port. Donc c'est M. Saadé qui en est le président. Et je sais que M. Saadé a vraiment un cœur qui bat pour Marseille aujourd'hui dans la vie de sa famille, dans sa vie à lui. Il est attaché à cette ville. Il voudrait d'ailleurs qu'elle progresse plus vite. Il a raison, moi aussi.
Je dis d'abord que déjà que Saadé, il nous en faudrait 10, 15 ou 20 sur Marseille.
Christophe Masse.
Et que les sacrifices qu'on a peut-être fait à Marseille pour l'accueillir sont des réels investissements sur l'avenir. Donc moi, je ne regrette pas du tout ce qui a été fait et je voudrais qu'il soit plusieurs à venir nous choisir ici sur Marseille pour développer leur entreprise et mettre une image et un symbole très très fort. On n'est qu'au balbutiement de cette belle histoire qui va, je pense, conduire Marseille au firmament des capitales euro-méditerranéennes grâce au tourisme. Il serait plutôt judicieux de confirmer notre réel attrait pour la croisière sur Marseille, de mettre en place tout ce qui est nécessaire de faire pour les accueillir dans de bonnes conditions. Et si après, dans quelques années, on s'aperçoit qu'en effet, le marché est là, que tout le monde travaille bien et que les terrasses du port seraient une opportunité intéressante, faisons-le.
Effectivement, concernant cet immense centre commercial appelé les terrasses du port, Jean-Noël Guérini est sur la même ligne que Christophe Masse, puisqu'il a promis, je cite, « d'annuler cette opération jusqu'à ce que le centre-ville soit capable de la supporter ». En d'autres termes, on pourrait dire « retarder pour mieux sauter ».
Jacques Pfister.
Concernant le projet justement des terrasses du port, le candidat Jean-Noël Guérini s'est montré un peu sceptique. Vous pensez qu'il pourrait remettre en cause ce projet ?
Je ne sais pas non plus. Hein, je pense que je vous renvoie vers lui. Je crois que le projet des terrasses du port, d'abord, il est parti il y a longtemps. Hein, je veux dire que c'est un projet qui est loin. Je crois qu'il a un énorme avantage, ce projet, en termes de structuration, c'est qu'il préserve l'activité portuaire tout en ouvrant, je dirais, les quais aux Marseillais. Je m'explique, vous savez que le trafic portuaire pourra continuer à se faire, j'allais dire, au rez-de-chaussée, hein, et la partie commerciale, touristique, visite, se fera à l'étage. Donc, quelque part, il y a eu quelqu'un, et je dois les féliciter, qui a eu cette intelligence de concilier à la fois le maintien de l'activité commerciale du port avec le développement d'un projet urbain de qualité qui va arriver sur le marché, je crois, dans les années 2012-2013. Hein, je pense que c'est à peu près ça l'idée. Alors, qu'une équipe nouvelle, si elle prend la main, s'interroge, ça me paraît aussi compréhensible, puisqu'elle n'a pas été vraiment associée à ce projet, me semble-t-il, au départ. Maintenant, la raison devrait l'emporter. Je ne sais pas où on en est en termes contractuels, ce dossier, mais je pense qu'il correspond à une volonté de tirer Marseille vers le haut.
Renaud Tarazi, architecte au sein d'Euromed.
Un des projets qui serait suspendu, ce serait les terrasses du port.
Déjà, une première réaction, c'est toujours très dangereux d'avoir des effets d'annonce en période électorale qui ne sont pas forcément totalement maîtrisés dans toutes les conséquences que ça pourrait avoir. J'imagine qu'aujourd'hui, les terrasses du port est une opération d'ordre privé avec un promoteur privé étranger qui s'appelle Forum Invest sur un territoire qui appartient au port autonome de Marseille. Qui est lui, comme son nom l'indique, autonome, donc géré par un conseil d'administration qui ne dépend pas entièrement de la ville de Marseille. Et tout président qu'il serait d'Euroméditerranée, M. Viard aura des difficultés ou aurait des difficultés à arrêter une mécanique lancée entre un promoteur privé qui s'appelle Forum Invest et le port autonome. En tout état de cause, je pense que ça aurait des conséquences financières et urbanistiques importante. Il y a des équipes d'architectes qui ont travaillé, il y a des urbanistes qui ont travaillé, de la pré-commercialisation lourde qui a été faite sur les terrasses du port. Je pense que la sagesse serait de bien vérifier toutes les conséquences que ça pourrait avoir d'arrêter un dossier comme celui-là. J'ai souvenir quand à la première mandature de Jean-Claude Gaudin, que Jean-Claude Gaudin avait inauguré Grand Littoral, dont nous étions les architectes, et il avait dit que sous sa mandature, il n'aurait pas réalisé Grand Littoral, mais il a eu la sagesse de continuer le projet, de le laisser aller à terme et de l'inaugurer. C'était l'œuvre de son prédécesseur. Et je pense que la politique en termes d'urbanisme et en termes d'aménagement de l'espace se fait sur du long terme et qu'il faut essayer d'être assez vigilant sur le respect de ce qui a été engagé. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde.
Nous sommes allés demander à l'ancien maire Robert Vigouroux, bien placé pour savoir si des projets lancés par une équipe municipale pouvaient être arrêtés par la suivante.
Quand je suis parti, il y avait c'était plus qu'un projet puisque les travaux étaient commencés. Du musée d'art plastique de César à côté de la mairie. Les travaux étaient commencés, César lui-même était venu, il y avait eu ses photos sur le bulldozer, on était en train de creuser. Donc, ça a été arrêté. Alors qu'il y avait eu, ça a été signé devant notaire, hein, il y avait 3 ou 4 notaires pour signer. Un autre projet qui était en cours, qui était de transformer l'Hôtel Dieu en grande bibliothèque, puisque l'Hôtel Dieu ne pouvait plus être un établissement hospitalier, que ça soit une grande bibliothèque. Et bon, de façon que tous les Marseillais, les touristes puissent aller se promener sur les arcades. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été continué, parce que bon, c'était encore esquissé, bien sûr, mais j'avoue que de faire un hôtel de grand luxe à cet endroit-là, qui va priver complètement les Marseillais de connaître l'Hôtel Dieu, et aux touristes aussi, parce que tous les touristes n'ont pas l'argent pour y aller, ça a été, vous voyez, donc pour dire qu'on peut arrêter quelque chose qui était en train.
Notons quand même que ces projets, stoppés en cours de route, étaient d'ordre culturel, et l'un d'eux a été remplacé par une opération hôtelière. Ce qui prête à penser qu'une importante initiative touristico-immobilière a peu de chances d'être abandonnée au profit d'une médiathèque.
Jacques Truot, président du club de la croisière.
Investir 250 millions d'euros dans une opération supérieur, alors qu'il n'y a pas pour les enseignes de luxe qui n'existent pas.
Il n'existe pas en enseignes, qui sera, je pense, une institution complémentaire à l'Europe de l'entreprise et sans doute aussi de tourisme.
Oui, bien clairement, même du tourisme de luxe quand même.
Librement, avec vous, la vie peut repartir
autrement. Librement,
avec vous, tout peut réussir.
Le maire Jean-Claude Gaudin à la présentation du projet immobilier Constructa.
Je n'ai rien à ajouter de la démonstration, d'abord de la démonstration du film qui montre que Marseille charge, que Marseille bouge, que Marseille devient une ville attractive. Ensuite, il y a cette évolution. Nous essayons de redevenir ce qu'était Marseille sous le Second Empire. Sous le Second Empire, Marseille avait fait la voie impériale rue de la République. Nous venons de la réhabiliter totalement. Nous continuons, bien entendu, dans cette voie, et vous voyez vous-même la transformation, sans que vous n'ayez pas besoin de faire plus de grands discours. Bon, on doit faire débarquer les croisiéristes le plus près possible de la ville. Par conséquent, nous avons rattrapé le retard. Marseille, aujourd'hui, est à l'heure, et grâce à des projets tels que ceux que l'on voit, Marseille se projette dans les 15 à 20 années à venir.
Jacques Pfister.
Et dans le tourisme, il y a deux axes qui sont très forts et qui sont d'ailleurs dans le programme de l'ensemble de nos candidats et qui sont dans le programme aussi de la Chambre de commerce. C'est d'une part le tourisme dit d'affaires. Et le tourisme d'affaires, c'est les congrès, c'est la dimension internationale d'accueil d'une ville comme Marseille ou d'accueil de séminaires, d'accueil de conférences internationales. Et tout le monde est aujourd'hui tout à fait décidé à développer ce point très fort que peut avoir Marseille. C'est une opportunité aujourd'hui qui n'est pas suffisamment exploitée. Et puis nous avons aussi le deuxième volet, qui est la dimension plus touristique du tourisme, je dirais, touristique, si je peux me permettre cela, c'est-à-dire la visite de la Provence, la visite de Marseille. Donc on a ces deux axes-là que nous souhaitons développer fortement. J'avais oublié les croisières qui font partie de la dimension un peu touristique découverte, si je peux dire, qui est un succès remarquable pour la ville de Marseille, puisque nous sommes aujourd'hui autour de 400-450 000 croisiéristes annuels. Maintenant, il faut rentrer autour de 1 million de passagers, de croisiéristes, parce que c'est ça la dimension, je dirais, de la Cour des Grands, quoi. La Cour des Grands, c'est 1 million de croisiéristes.
Et comment se porte l'hôtellerie à Marseille ?
Globalement, nous avons une offre d'hôtellerie qui est insuffisante. Bon. Mais d'un autre côté, on voit qu'ont surgi de nombreux hôtels de grande qualité, 4 étoiles, 5 étoiles autour du Vieux-Port, si je peux dire. Le New Hotel de Marseille, le Radisson. Il y a des projets importants sur Euromed, sur Euroméditerranée, sur la Vieille Charité, etc. Il y a des projets donc très très importants qui vont faire monter en gamme, en tout cas en lisibilité à l'extérieur, l'offre hôtelière du territoire. Mais en gros, la route est encore longue pour offrir sur toute la gamme de 1 étoile à 5 étoiles suffisamment de place pour satisfaire l'ensemble de nos touristes. Donc on a encore beaucoup de boulot, si je peux dire, pour être au niveau des grandes métropoles que nous voulons concurrencer. Marseille est une ville audiovisuelle aujourd'hui. La Belle de Mai, c'est une grande réussite. L'image marseillaise au cinéma est une image très très forte, sans parler des épisodes qu'on voit sur l'affaire 3, etc. On a toute une offre touristique à donner et nous avons un partenariat avec Audit France pour définir une sorte de plan tourisme d'offres touristiques globales, d'offres hôtelières globales, en y incluant cette fois les grands joueurs internationaux dans le domaine de l'hôtellerie, pour se construire une offre hôtelière qui soit à la hauteur de Marseille-Provence.
Est-ce que s'il y a alternance, ce projet de l'Hôtel Dieu pourrait être remis en cause ?
Franchement, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Je pense, je le regretterais, moi, personnellement. Ce qui est pour nous très encourageant, c'est que ce soit le candidat Jean-Noël Guérini ou que ce soit le maire sortant Jean-Claude Gaudin, tous les deux sont conscients que le tourisme est un levier que nous devons actionner beaucoup plus fort. Bon. Donc, tout le monde est totalement aligné sur cette idée-là. Alors après, dans les modalités, et notamment sur ce projet, quelle est la position de M. Guérini? Je crois que c'est à lui qu'il faut le demander. Hein.
Moi, j'ai entendu M. Mennucci dire qu'il était plutôt contre ce projet. Après, la question n'est pas vraiment là, est-ce qu'il est pour ou contre, c'est est-ce que matériellement, c'est possible de changer d'orientation ou le projet est lancé, en fait. C'était plus ça, ma question.
Ah oui. Je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas vous répondre. Ce qui, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est que nous avons affaire à deux candidats qui ont envie de tirer Marseille vers le haut, que l'offre hôtelière de haut de gamme est absolument indispensable pour le faire, qu'elle n'est pas suffisante, bien évidemment, et que d'une manière ou d'une autre, on ira vers un développement touristique ambitieux dans ce territoire.
Et il y a consensus sur le développement du tourisme des affaires ?
Aussi parce que, en fait, Marseille, plus particulièrement, est une ville qui a une énorme, je dirais, force, un énorme potentiel pour accueillir des séjours courts. Parce que Marseille est très accessible maintenant, depuis quelques années déjà, que ce soit par l'aéroport avec les lignes low cost que nous avons ouvertes, ou que ce soit par le TGV. Donc il y a vraiment une accessibilité très forte. Et c'est absolument... stupéfiant de voir, moi qui vais beaucoup à Paris, je vois comment l'image de Marseille sur ce plan-là a changé. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions voient d'un œil très très favorable le fait d'organiser ici, parce que ça change, la vie change hein, entre Marseille et Paris. Passer 2-3 jours sur un congrès qui tient la route et qui change un petit peu la tête des gens, c'est une opportunité que nous avons. Il faut que nous soyons capables de construire les structures qui nous permettent de réaliser cet accueil le mieux du monde. On a déjà beaucoup d'atouts, mais il est clair que nous sommes très justes quand il s'agit d'accueillir des grands congrès internationaux. Donc beaucoup de mal ici, parce qu'on n'a pas les capacités suffisantes. Hein. Et donc tout le monde en est conscient et tout le monde veut jouer cette carte, que ce soit, j'allais dire, à droite ou à gauche.
L'acteur majeur en matière d'hôtellerie que nous voulions rencontrer, c'est Georges Antoun, qui est vice-président de la CCI et est à la tête d'un groupe hôtelier. Mais on a eu une petite mésaventure qu'on aurait aimé vous faire écouter, sauf que, faute d'avoir enregistré, nous allons nous contenter de vous la raconter.
Alors en fait, c'était convenu avec la CCI qu'on réalise un entretien de téléphonique avec Georges Antoun. Donc je l'appelle, il est d'accord, on cherche à fixer le fameux entretien. Et alors qu'on cherche un horaire qui convient techniquement, je fais une petite confusion de jours. Mais je vous assure que je me rattrape dans les 30 secondes. Trop tard. Georges Antoun se met à hurler qu'il annule tout. Et il crie « Je monte en pression. Madame, on arrête là. Je me connais, je monte en pression. » Je bredouille, interloqué, mais rien à faire. Il me raccroche au nez.
Patrick Mennucci, candidat du Parti Socialiste, est loin de s'opposer au tourisme d'affaires et à l'hôtellerie de luxe.
Qu'est-ce qu'il peut faire, le maire ? Le maire, c'est pas le chef de l'IBM, c'est le maire. Il faut relancer une activité et il faut nous être en capacité de trouver aussi des activités qui sont adaptées à la population. Nous avons à Marseille aussi une population qui a des petits diplômes. Ou pas de diplôme. C'est qu'on est la ville de France où il y a le moins de gens au-dessus du bac. C'est la vérité, ça. Et si vous êtes maire de Marseille, il vaut mieux le savoir. Parce que si on est capable, par exemple, comme nous le proposons sur les Catalans, à la place de l'usine Giraudon, de faire une thalassothérapie en lien avec l'hôtel Sofitel, le Radisson et le New Hotel, qui sont sur le boulevard Charles-Dugon, eh bien là, on va avoir de la création d'emplois adaptée à une partie de la population marseillaise qui n'a pas les diplômes.
Je m'y attache de toutes mes forces.
Nous poursuivons notre émission sur l'économie et le politique avec Jacques Pfister.
Vous êtes en contact avec les commerçants de l'hypercentre, puisque ces commerçants vont, je reprends vos mots, être impactés forcément, même si vous disiez on ne sait pas trop comment. Certains se montrent inquiets. Est-ce que justement ce projet des terrasses du port ne risque pas de mettre à mal le commerce de proximité, le petit commerce de l'hypercentre ?
L'offre, notamment l'offre de magasins nouveaux, l'offre va créer la demande. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une attitude plus conservatrice qui est de dire qu'il faut limiter l'offre à ce qu'elle est parce que la demande viendra et enrichira, si vous voulez, l'offre actuelle. Et je pense que ça, c'est une mauvaise attitude parce qu'on ne tire rien vers le haut en faisant ça. Donc les terrasses du port et les investisseurs privés de terrasses du port font le pari que l'offre, c'est-à-dire l'offre de magasins nouveaux, va attirer de nouveaux clients. Et c'est comme ça qu'on progresse. Bon. Bien entendu, ce n'est pas un raisonnement comme 1 plus 1 égale 2, hein, on n'en sait rien.
Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce et d'industrie.
Donc la première idée générale, c'est de considérer qu'on manque d'une offre de magasins de haut de gamme, d'une offre de magasins touristiques à Marseille, d'une offre pour les croisiéristes qui vont pouvoir se promener par là, ou même les passagers des cars ferries, etc. demain. Donc globalement, nous ne pouvons qu'être favorables à cette proposition. Le deuxième volet que vous évoquez, je le prendrai de manière plus large. C'est-à-dire qu'il y a un problème en France, et à Marseille comme ailleurs, c'est la disparition dans les centres-villes des petits commerces traditionnels. C'est malheureusement une tendance globale. Hein. Et on voit naître dans les grandes rues commerçantes, apparaître poussées, je veux dire, de tous bords, les agences bancaires, les agences immobilières, les magasins d'enseigne, qui sont très importants pour structurer un territoire, mais qui ne sont pas tout, et disparaître petit à petit le petit commerce indépendant, et notamment les commerces de bouche. Vous n'êtes pas de la même génération que moi, mais moi j'ai été élevé à aller dans la rue et à trouver mon boucher, mon épicier, mon charcutier, mon poissonnier, mon boulanger. Enfin, je veux dire que ça faisait partie de cette vie. Cette vie-là, elle est quelque part menacée. Ça n'a rien à voir, j'allais dire, avec les terrasses du port ou l'évolution de l'hypercentre de Marseille. Et il est important pour nous, et on y réfléchit avec la ville, et on y réfléchira demain avec la ville, de savoir comment on peut promouvoir le maintien de ces métiers-là qui créent effectivement la vie locale, hein, la vie du quartier. La plus grosse problématique qu'il y a en la matière, c'est le prix du pas de porte, hein, c'est le prix c'est le loyer, c'est le foncier, quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est un problème national, c'est pas un problème que local. Les petits artisans n'ont pas de capacité, je dirais, financière suffisante ou de rentabilité immédiate suffisante pour pouvoir se payer des pas de porte qui sont devenus hors de prix. Et ça, nous devons reparler avec la ville. Il y a un texte de loi qui est sorti récemment qui permet à la ville, à la municipalité de préempter certains transferts de commerce et de racheter pour remettre sur le marché. L'idée étant justement d'essayer de structurer un peu plus l'offre commerciale, notamment en privilégiant ces commerces-là qui font la vie du quartier. Et tout reste à faire en la matière, ici comme ailleurs. Tout reste à faire en la matière pour éviter que ne disparaissent ces petits commerces-là, ou en tout cas pour freiner leur déclin.
Mais est-ce que, quand on voit ce qui a été transformé, si on prend la rue de la République par exemple, est-ce que là, au contraire, il n'y a pas eu une accélération de leur disparition ?
Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que d'un côté, je pense, pour tous les Marseillais, je veux dire, le travail qui a été fait sur la République est quelque part remarquable, hein, c'est-à-dire que la rénovation de cette rue était absolument indispensable, parce que c'est une rue, c'est presque un peu les Champs-Élysées de Marseille, hein, quelque part. Donc le tramway en plus qui pacifie, je dirais, un petit peu cette rue aujourd'hui, elle est plus agréable à fréquenter, ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le prix des loyers, le truc, fait que les petits commerçants, qui avaient peut-être aussi besoin d'un sérieux coup de modernisme, hein, n'ont pas pu suivre pour la plupart, et donc se sont retrouvés un peu hors-jeu, ou en tout cas dans une position où il fallait passer la main. Mais le fait qu'ils passent la main à trop d'enseignes, à trop d'agences bancaires et autres, ça pourrait être considéré comme un peu préoccupant. Aujourd'hui, bon, cette offre se structure, et la problématique de la République un développement que moi je trouve très important pour le rayonnement du centre-ville de Marseille, d'abord, et un peu préoccupant parce que on perd un peu ce type de commerce. Il n'y en avait pas beaucoup, oui, la République, hein, c'était plutôt des petits commerces, pas très clairs, quoi. Enfin, je veux dire, on ne savait pas très très bien, on n'avait pas cette offre, me semble-t-il, hein, aussi importante que des commerces de bouche, de la vie du quartier, etc.
Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du chabi, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Près de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir.
De tous côtés de la Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées.
Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Près de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir.
On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier.
Cagada de merda.
Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce et d'industrie.
Alors, ce serait possible, ce dont vous parliez tout à l'heure, que la ville préempte des pas de porte sur cette rue de la République ?
Ah, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas exactement où on en est, hein, mais je veux dire que la loi rend les choses possibles. Hein. On ne peut pas préempter pour préempter. Je veux dire que, d'abord, ça coûte cher. Hein, ça coûte cher aux Marseillais, hein, de le faire. D'autant que si c'est pour essayer d'aider des commerces qui n'ont pas la même rentabilité, parce que c'est, malheureusement, c'est une question de chiffres. Hein. Il y a les gens qui vendent cher des produits de qualité avec des marques ont une capacité financière plus importante que le petit commerçant qui vend du pain ou de la viande. Donc on est quand même dans une difficulté. Il faut faire des choix. Pour faire des choix, il faut avoir une stratégie. Hein. Et pour avoir une stratégie, il faut y travailler. Bon. Mais je pense que les deux candidats ont leur propre réflexion là-dessus, à savoir que ce soit la rue de la République, que ce soit demain l'ensemble de cette zone qui va être piétonnisée et donc qui va tout d'un coup valoriser encore plus les commerces de proximité, puisqu'on espère que derrière ça, plutôt que d'avoir des voitures qui passent, on va avoir des piétons qui se promènent. Hein. Comment organiser, je dirais, la transformation, la cession, le passage de témoins peut-être nécessaire dans certains cas. Et finalement, pour des gens qui ont une vie de travail dans un magasin comme ça, plutôt opportune aussi pour eux de passer la main, comment organiser cela pour éviter que, j'ai rien contre eux, mais qu'on ait que des agences bancaires et des agences immobilières. Donc c'est une question qui se pose aussi bien à l'équipe actuelle qu'à l'équipe de demain, même si c'est la même. Et ça, nous levons la main en disant on est prêt à réfléchir avec vous et travailler avec vous. Mais vous comprenez bien qu'il faut avoir une stratégie.
Mais alors, donc en tout cas, ça n'a pas encore été pensé. Il n'y a pas de projet en cours par rapport à cette question qui se pose. Et vous dites quand même qu'il pourrait être inquiétante.
Oui, c'est-à-dire que ce dont nous sommes sûrs ici, c'est que, c'est presque un slogan, demain sera bien mieux qu'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va tirer l'offre vers le haut, on sait très bien que le résultat sera très supérieur à ce que nous constatons aujourd'hui, globalement, dans l'offre. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle, je veux dire, donc c'est pas un motif d'inquiétude, c'est plutôt un motif de motivation supplémentaire. Après, on se dit, il va falloir effectivement structurer cela. Nous sommes prêts à assister, à accompagner les équipes qui vont décider de cela dans une réflexion comme celle-là. On va peut-être pas refaire le monde, hein. Mais en tout cas, on peut être plus vigilant, et il faudra qu'on le soit, compte tenu de la redistribution des cartes que nous allons voir arriver. Hein. Parce que c'est une logique incontournable, on peut dire ce qu'on veut, mais à partir du moment où vous piétonnisez, par exemple, tout d'un coup, vous donnez une valeur au fonds de commerce présent qui est très supérieure à ce qu'elle était avant. Donc ça favorise les gens qui sont sur place, qui vont avoir une capacité, je dirais, à valoriser leur point de vente. Et d'un autre côté, ça limite le nombre de repreneurs possibles. Donc il va falloir régler ce point-là. Il va falloir régler, effectivement. Ce n'est pas non plus quelque chose qui nous empêche de dormir, entre parenthèses. Hein, mais c'est un problème, ouais.
Laetitia Allegrini, présidente de l'Association des commerçants du quartier République.
Il faudrait que la réhabilitation immobilière avance un petit peu plus vite. Parce que, bon, déjà, il y a un décrochage par rapport au bas de la rue. Nous, ici, on a un double problème au niveau de notre chiffre d'affaires qui est... Il y a eu les travaux du tramway. Là, maintenant, les immeubles sont vides. Donc, l'activité n'a pas vraiment repris. Donc, ça, c'est vrai que ce serait pas mal que le prochain maire, quel qu'il soit, puisse essayer de faire un petit peu avancer ça. L'idée de requalifier un petit peu la rue, d'essayer de redémarrer un petit peu en avant, de stopper la dégradation de la rue, bon, ça peut être que profitable à tout le monde. Bon, après, il faut voir comment. Bon, là, mon opinion, quand même, c'est qu'il reste très peu de commerçants. N'aurait-on pas pu s'appuyer davantage sur ce qui était, sur un acquis, et essayer d'améliorer dans l'intérêt de tout le monde, sans pour autant repartir de si bas? Parce que là, ça va être difficile. Est-ce qu'on va arriver à attirer quand même des gens? Bon.
Et on vous dit quoi, vous? On vous dit que les gens vont revenir, qu'il va y avoir
Réinvestissement de logement ?
Ah oui, tout à fait. C'est aussi bien. Oui, le logement est par la requalification urbaine, donc de la voirie, justement le passage du tramway, bon, le quai où on va enterrer la passerelle, l'arrivée des terrasses du port, ça c'est un autre sujet. Bon, oui, effectivement, ça, on nous le vend à nous comme à toute la ville, de toute manière, comme la future rue commerçante, le deuxième centre.
Donc vous avez confiance dans le devenir de cette rue ?
Oui, je pense que quelque chose se fera, parce que c'est un axe majeur, c'est une belle rue, elle est entre Euro-Méditerranée, bon, c'est un peu un concept comme ça, mais enfin, c'est vrai que le quartier d'affaires en lui-même se développe, les tours, des immeubles privés, donc bon, des bureaux, et le centre historique, donc quelque chose se fera, ça j'ai confiance, et puis ça commence quand même à bouger. Bon, ce qui m'inquiète un petit peu plus quand même, c'est d'avoir placé la barre aussi haut, au niveau du prix des appartements, des loyers, des beaux commerciaux. Alors bon, c'est vrai que les beaux commerciaux, ça peut attirer de grandes enseignes, puisque souvent ne regardent pas trop à la dépense, il faut être là parce que ça signifie quelque chose, bon. Mais ça peut par contre être jouer un effet d'éviction pour des petits commerces, déjà. Et même au niveau du logement, actuellement, on traverse une période de crise. Est-ce que ça ne va pas ralentir ce devenir ? Alors que bon, pour nous, il y a quand même un petit peu péril en la demeure. Là, on a passé les travaux du tramway, maintenant, il faut que le reste embraye. Bon, après, quel sera l'effet, une fois la rue de la République développée et des terrasses du port, ça, c'est un autre débat. Mais bon. Un peu plus inquiète à ce niveau-là. C'est quand même un centre commercial. On sait que le débat tourne autour de requalifier le centre pour attirer le maximum de gens. Mettre un centre commercial vraiment juste à côté, bon, c'est peut-être un peu contradictoire, d'une part. D'autre part, la rue New Look sera à peine terminée. Elle n'aura peut-être pas trouvé sa vitesse de croisière. Donc, est-ce que ce mastodonte, enfin, c'est pas péjoratif, mais ça va être vraiment, c'est un gros projet. Juste à côté, ça va pas être un peu un aspirateur à clients, je sais pas. Si tout travaille bien en symbiose, bon, là on en est à savoir si ce qu'on fait rue de la République n'est pas un second centre. Alors bon, c'est pas non plus le but de démultiplier les enseignes, de remettre, bon, de prendre au centre historique, d'avoir la rue de la République, les terrasses du port, Grand Est, autres. Bon, c'est d'essayer plutôt de développer tout ça, mais en bonne intelligence.
Jean-Louis Touré, troisième adjoint au maire, délégué à la finance et au développement économique.
Euro-Méditerranée construit en permanence des bureaux et que ces bureaux, chaque fois, jusqu'à présent, ces bureaux, à la limite, on est toujours en retard en construction. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on aille plus vite. L'une des grandes fonctions d'une municipalité, c'est l'urbanisme. Et actuellement, en tout cas, Euro-Méditerranée est occupée à 100% et même nous sommes un peu en retard, c'est-à-dire qu'actuellement nous avons des demandes qui ne sont pas satisfaites, notamment parce que certaines collectivités publiques ont utilisé des bureaux, ce qui m'a un peu contrarié.
La région, par exemple ?
Ça m'a un peu contrarié, oui. Ça m'a contrarié parce que j'aurais préféré que ces espaces-là puissent être affectés à des entreprises. Mmh. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
Les petits entrepreneurs et professions libérales fraîchement installées au sein du centre d'affaires des docks sont séduits par la nouvelle image de Marseille. Extrait choisi avec un avocat, un chasseur de tête et une conseillère en marketing.
J'ai choisi cet endroit parce que j'ai travaillé avant à Londres et Paris, donc j'ai travaillé dans des gros cabinets où j'étais avant collaborateur, donc à haut niveau. Et à Marseille, comme le projet Euromed fonctionne bien depuis maintenant 5-6 ans, je veux participer à l'aventure, donc être au cœur de l'action, c'est-à-dire là où tous les cabinets d'affaires et tous les acteurs économiques importants de la région sont situés. Déjà pour y participer économiquement, parce que l'avocat participe aussi à faciliter le business de tout le monde, et aussi parce que comment vous expliquer ? Pour une question de représentation et d'image de marque, c'est toujours mieux. C'est le logo Euromed, pour moi, c'est comme une marque, en fait. C'est une marque de fabrique. Avant, j'étais situé au centre-ville de Marseille, rue Grignan, autour du Palais du 6, où tous les avocats sont traditionnellement là. Moi, j'ai envie d'être dans la rupture, d'être dans le quartier d'affaires qui bouge. C'est dû à mon parcours aussi. Donc, c'est un investissement qui, pour moi, est rentable, même si c'est un peu cher, mais bon. Mais je m'y retrouve financièrement. Ça me permet de gagner d'autres clients.
Aujourd'hui, je retrouve une ville... Avec au niveau de la population, donc ce sentiment de dynamisme et puis un bassin au niveau des entreprises qui est intéressant pour notre activité. L'avenir se construit aujourd'hui à Marseille autour des docks, donc on a décidé de s'implanter aux docks.
J'ai regardé un petit peu tous les centres d'affaires qu'il y avait dans la région, notamment sur Aix-en-Provence, Marseille, aussi un petit peu dans le Var. Je me suis dit que c'était le business center qui correspondait le mieux à mon positionnement d'entreprise et à ce que je voulais faire et au développement, donc souhaiter l'entreprise. Voilà, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant en termes de potentiel.
Et plus particulièrement, les docs.
Voilà, plus particulièrement les docs, effectivement, où vous avez tout type d'entreprises installées, des entreprises aussi de renom. Et c'est vrai que j'avais eu une très belle... On m'en a dit beaucoup de bien, en fait. On m'a dit que c'était vraiment le business center qui allait prendre énormément d'essor, etc. C'est vrai que, bon, il n'est pas encore au niveau des centres d'affaires parisiens, par exemple. C'est vrai qu'un soir, je suis revenue, il était 6h30, 7h. Et c'est vrai que j'étais extrêmement étonnée. La première fois où je suis revenue, c'était complètement mort. Tout le monde était sorti du bureau. Je m'attendais à ce qu'il y ait des restaurants ouverts, qu'il y ait encore énormément d'activités. Et c'est vrai que c'était complètement mort. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour arriver au niveau des centres d'affaires parisiens ou autres, mais bon, j'ai de l'espoir.
Jacques Truot, président du club de la croisière.
Cette transformation de la ville nouvelle, vous dites, c'est une exception parce que Marseille en Europe, d'après ce que vous dites, c'était aussi une exception parce qu'il y avait
des classes populaires au cœur du centre-ville. Est-ce que toute cette politique va transformer aussi cette situation de quelle classe sociale dans le centre-ville et...
Je ne sais pas si on a une transformation. Bon, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a eu la chance à Marseille de pouvoir intégrer toutes les classes sociales dans une forme finalement de cité qui est toujours restée en équilibre. Je pense que ceci appartient à l'histoire de Marseille. Je ne pense pas qu'il y ait un risque d'avoir de l'insécurité d'autres populations sur l'université.
Non, c'est sans parler de risque, est-ce que c'est juste il n'y a pas une transformation? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'y insister ou les classes sociales de riches ou de plus bas sont remplacées petit à petit par des classes sociales supérieures, étant donné qu'on développe aussi le tourisme, des affaires, le luxe?
Oui, enfin moi, au niveau tourisme, l'affaire, le tourisme et le luxe, ce sont des jeunes passagers. Ce ne sont pas des gens qui vont s'implanter, hein, qui sont quelques heures, quelques jours. Je ne pense pas qu'il y ait un rejet de la part de la population marseillaise, je ne pense pas des origines sociales qui s'opposent à ces informations. Pourquoi? Parce que c'est une source d'emploi, c'est une source d'équilibre aussi pour l'ensemble des populations qui vivent un certain équilibre dans la vie de Marseille. Donc je ne pense pas que ça pose un problème.
C'est pas la question quand même, c'est quelle transformation de la ville? Est-ce que c'est les touristes qui restent les touristes, mais pas s'implanter dans la ville, ils vont quand même visiter le centre-ville. Donc quel centre-ville? Le centre-ville composé de quelle classe sociale?
Ben, c'est le propre de ces villes méditerranéennes. Quand vous allez à Barcelone, quand vous allez à Gênes, quand vous allez à Naples, c'est plus. Si vous voulez de l'extérieur, quel que soit votre régime social, vous êtes confronté à ce contact avec une population cosmopolite. C'est pour ça, c'est la caractéristique de la Méditerranée. Regardez les gens, quand vous faites votre shopping le samedi en centre-ville, vous regardez les multiples. Vous ne voyez pas que les gens la route ou en achat. Moi, je m'aperçois que dans les enseignes, la Coste, etc., vous avez aussi des populations, une société très, très, très vaste, qui viennent acheter. Et qui sont en contact permanent avec des gens de construction beaucoup plus élevés. Et ça se passe sans incident.
Donc ça veut dire que Marseille peut garder son centre-ville populaire et développer le tourisme de luxe.
Je n'ai aucun doute sur le sujet.
La masse détresse dans sa tête frise des phrases toutes faites. Des phrases qui frottent et se fracassent en masse dans ma tête. Une tête bien faite frise des phrases en frôlant l'hypnose. Alors je dose et pose ma prose sur le fil d'un funambule qui avance, qui recule, un peu mule, un peu docile. Alors bloque le style, papy, reste tranquille.
On se la confesse en espèces, sans jamais perdre pièce. De la menu, mon nez qu'on aime à mourir d'angoisse. Plus de serpents qu'au Sahel, là c'est ici que ça se passe. Plus de putes qu'au bordel, plus grand qu'un hôtel de passe. Oui, c'est la métropole qui prostitue la populace et lui fait boire la tasse de la métropollution.
La métropole avec la métropopulation. Oui, dans la métropole avec la métropopulation.
Les chemins de l'emploi sont truffés de virages. Et c'est ce qui donne à certains la gerbe des pâturages. La terre était brûlante avant qu'on invente le carrelage. La terre s'est réchauffée depuis qu'existe le pavé. Certains détournent les budgets, d'autres font les étalages. Dans les bandits buildings, il y a des caves et des étages. En bas le planton, en haut la cabine de pilotage de l'aviateur qui ne vole pas haut mais vole sur tout l'entourage.
Dans la métropole, il vole la métropopulation. Oui, dans la métropole, il vole population. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Puis dans la métropole, aïe.
poursuivons notre émission sur l'économie et le politique avec Renaud Tarazi.
Ce que je regrette effectivement, c'est que de voir dans les listes, et surtout dans les listes sortantes, assez peu de renouveau par rapport à des postes clés d'une génération de quadras qui auraient toute leur place aujourd'hui dans une réflexion sur l'avenir de Marseille. Mon père a fait beaucoup de politique, son associé aussi. Ils sont aujourd'hui bien loin de tout ça et je remarque que les élus qui se présentent aujourd'hui en tête de liste étaient élus en même temps qu'eux il y a déjà pas mal de temps. Je pense que le renouveau du personnel politique est un des thèmes importants à mettre en débat. Et je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus de jeunesse et de fougue et d'ambition dans les gens qui sont en bonne position sur les listes électorales. Il devrait y avoir aujourd'hui sur les listes et dans le prochain conseil municipal plein de gens entre 30 et 40 ans qui seront les futurs élus de la ville de Marseille. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas prêts, ne sont pas préparés et forcément, on se retrouve à être encore gouverné par des gens de grande qualité, mais qui sont, à mon avis, là depuis un peu longtemps, en règle générale.
Vous pourriez être un petit peu plus explicite ? Enfin, vous pensez à qui ?
Je pense que deux mandats pour un certain nombre d'élus, des mandats de 6 ans, c'est déjà lourd. Repartir pour un troisième mandat, c'est se dire que pendant 18 ans, c'est-à-dire toute une génération, il n'y aura pas eu de changement de gouvernance.
Jacques Pfister.
Et quel intérêt alors vous portez en tant que président de la Chambre du commerce et de l'industrie à la campagne électorale ?
Un grand intérêt, bien sûr, c'est très très important. Bon, en tant qu'institution, ici, nous sommes tenus à un devoir de réserve. Hein. Vous le comprenez très très bien, je vois votre sourire. Par contre, ce qui est vrai, ce que je peux dire moi, c'est que je vois que ce soit Jean-Claude Gaudin d'un côté ou Jean-Noël Guérini de l'autre, je pense que c'est deux candidats principaux, ils ont tous les deux placé ce combat électoral sous l'angle de la conquête et de l'ambition. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que dans la déclinaison de leur programme, ils sont dans la dimension fondamentalement économique. Les deux partent aujourd'hui dans leur discours, ce que je lis, leur programme, de la nécessité de faire grimper, je dirais, le niveau économique de ce territoire, son attractivité. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que je vois que l'élection marseillaise est une élection qui est vue comme une élection ambitieuse. Vous voyez, le discours est Marseille est une ville en devenir, Marseille est une ville qui est en train de décoller, et donc la conquête, elle est dans le combat électoral. Et ça, on est, quelle que soit l'issue, dans une bonne dynamique.
Il y a peu de différence au niveau économique dans les deux programmes ?
Je dirais qu'il y a peu de différence, oui. En termes d'ambition tout court, hein, en termes de vision pour sa ville, M. Gaudin parle de la volonté de faire rentrer Marseille-Provence dans le top 20 des métropoles européennes, ça veut dire dans les 20 premières grandes villes européennes. Et M. Guérini, de son côté, déclarait vouloir concurrencer Barcelone à terme, ce qui est pour moi la même chose, je veux dire, en termes d'ambition. Mais tant mieux, j'applaudis. Le maire sortant a un projet très structuré sur le port, par exemple, et je crois savoir que M. Guérini n'est pas favorable à ce projet dans son contour précis, mais qu'il est aussi très favorable à un travail de rénovation de toute cette zone-là. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va falloir investir à fond sur les transports en commun, sur la piétonnisation de l'hypercentre, sur des projets d'envergure. On parlait tout à l'heure de grands projets internationaux, notamment en matière de congrès, etc. Tout le monde est... Je lis dans les deux cas une ambition et une volonté de se comparer à d'autres villes pour montrer qu'on peut faire au moins aussi bien qu'eux des villes qui sont nos concurrents. Nos concurrents sur le pourtour méditerranéen, c'est Barcelone, c'est Gênes, ce sont à la fois des collègues et des concurrents. Mais...
Direction le Parc Chanot, au meeting du candidat socialiste Jean-Noël Guérini.
On note comme un décalage entre cette chanson révolutionnaire et ce discours libéral qui rassure tant le président de la Chambre du commerce et de l'industrie.
Jean Viard, présenté comme sociologue, chef d'entreprise et futur président d'Euroméditerranée, sous réserve que le Parti Socialiste l'emporte.
Vous dites quelque part que Marseille est comme une femme bossue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je disais ça dans un de mes livres, en disant effectivement qu'on aime tous beaucoup Marseille, et en même temps, on l'aime un peu comme l'aimerait une femme, un homme qui aurait une femme bossue, il serait un peu gêné de la montrer à ses copains. C'est-à-dire, à la fois, on aime beaucoup cette ville, et en même temps, on aimerait qu'elle soit un peu autre, un peu plus belle, un peu plus attractive, qu'on puisse se promener sur le territoire, qu'elle soit un peu dans le goût davantage.
Jean-Noël Guérini.
Je suis un homme libre et un socialiste ouvert.
C'est ça aussi le rêve. Je souhaite que Marseille devienne la capitale euro-méditerranéenne. C'est ça aussi le rêve. Je souhaite que Marseille devienne la capitale européenne de la culture. C'est ça le rêve.
Je crois que pouvoir accueillir les entreprises dans de bonnes conditions et éventuellement pouvoir leur faire, entre guillemets, des cadeaux, moi je n'y vois aucun inconvénient. Et pourtant, je le dis, je le répète, vous le savez, je suis socialiste, je suis un homme de gauche.
Le summum du consensus entre les décideurs économiques et politiques est atteint à propos de la candidature de Marseille comme capitale de la culture 2013. Jacques Truaud.
C'est un élément supplémentaire pour fixer de nouveaux opérateurs de croisière sur le Pays-Bas. C'est un plus excessivement important que le club de la croisière se rendra pour le rang international dans les salons internationaux de la croisière.
Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce et d'industrie.
Fantastique exemple dans le sens de la réussite, c'est le projet culturel Marseille, capitale européenne de la culture, où tout le monde est arrivé quelque part à se mettre ensemble pour soutenir ce projet. Et nous donnons des leçons aux autres, à certaines autres villes qui se déchirent un peu sur ce projet. Et nous, tous nos efforts sont faits pour que l'ensemble de la collectivité porte un projet comme celui-là. Donc cette dimension du jouet collectif, du jouet ensemble, c'est comme l'Olympique de Marseille. Le jour où nous savons jouer collectif, il n'y a personne qui peut nous battre.
Mais alors, justement, je voulais vous poser la question sur Marseille, capitale culturelle 2013, européenne 2013. Vous croyez qu'à travers cette candidature, on va assister au mariage entre l'économie et la culture ?
Ah, écoutez, ça, c'est un sujet. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. Je vais prendre encore beaucoup de temps.
Moi, j'ai du temps.
D'abord, vous regardez autour de vous, le monde économique, dans son histoire, a toujours été proche de la culture. Autour de nous, là, dans ce bureau, vous voyez qu'il y a des tas de peintures qui reflètent quelque part le passé économique, le passé portuaire de notre ville de Marseille. Il y a autre chose, il y a des paysages plus larges de la Provence. Ça, c'est le travail de mécène de notre, dans notre histoire, de grands chefs d'entreprise qui avaient réussi, qui ont voulu se tourner vers les gens de culture en disant « Retracez-nous, avec votre expression de l'époque, le moment que nous vivons, le moment économique que nous vivons. » Le mouvement que les entreprises veulent donner dans le domaine culturel doit être encouragé. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, un chef d'entreprise... D'abord, de temps en temps, il a envie de respirer, il a envie de s'extraire de son quotidien. Il est souvent un homme de culture. Il joue de la musique, il chante, il aime se changer les idées. Nous devons converger vers quelque chose que tout le monde partage. C'est-à-dire que nous, on en a un peu marre de voir que les entreprises sont diabolisées, hein. On est d'accord sur le fait que la culture, c'est un élément clé de notre civilisation. C'est un élément où tout le monde se retrouve apaisé. Vous voyez, c'est ce côté d'apaisement. Parce que il n'y a pas d'enjeu. Et ça, nous avons effectivement un carnet de chèques. Et donc, là, ce rapprochement, c'est presque, comme on disait monsieur le président Sarkozy, une politique de civilisation. Je pense que quelque part, ça doit rentrer dans nos gènes que la culture, c'est bien entendu un levier économique fort. Nous, on dit, 1 euro qu'on va investir dans la capitale européenne de la culture, c'est 6 ou 7 euros que le territoire va récupérer. Donc c'est un bilan économique favorable. C'est très important pour le rayonnement de la ville. Le rayonnement. Vous savez, nous on voit les entreprises qui viennent ici, qui viennent de l'étranger. Ce qu'ils regardent, c'est les conditions d'accueil. C'est comment leurs cadres qui vont venir ici, leurs familles, leurs employés, comment ils vont vivre. Comment la culture qui commence à avoir de plus en plus d'importance est assurée. Quel projet culturel il y a ici. Donc, directement et indirectement, d'un point de vue économique, c'est une bonne chose. Mais je profite de ce que vous me posez la question pour vous dire que ça va plus loin que ça. C'est philosophique, cette affaire-là. Les chefs d'entreprise ont intégré dans leur vie une dimension culturelle, parce qu'ils en ont besoin. Parce que la culture, d'une certaine manière, c'est l'apaisement. C'était beau, hein ? Mais c'est vrai.
Bon, pour conclure, on peut vous avouer qu'au cours de ces recherches, ce qui nous a frappé aux côtés des décideurs économiques ou des entrepreneurs, c'est une impression de discourir sur du virtuel. Comme si l'essentiel, c'était de donner à voir une vitrine pour vendre cette image de Marseille victorieuse, Marseille capitale, capitale de tout à la fois d'ailleurs, de l'Euroméditerranée, de la culture, voire du luxe, et peut-être bien de la culture du luxe.
D'ailleurs, pour ces élections municipales, les slogans du Parti Socialiste et de l'UMP se ressemblent. Mais au fait, le but, c'est de faire gagner qui à Marseille ? Et Marseille, ça réussit à qui ?
Cette émission sur le monde économique local et sa vision d'un Marseille doré a été réalisée par Katia Kovacic
et Anouk Batar. Sont intervenus Laetitia Allegrini, Aurélie Campello, Jean-Claude Gaudin,
Jean-Noël Guérini, Christophe Mass, Patrick Menucci,
Renaud Muselier, Jacques Pfister, Marc Pietri,
Olivier Rosato, Christian Sori, Renaud Tarazi,
Jean-Louis Touré, Jacques Truot,
Jean Viard et Robert Vigouroux.
Prochain rendez-vous autour des municipales, c'est vendredi à 18h pour le bilan culturel de l'équipe du maire sortant, Jean-Claude Gaudin.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions autour des municipales sur notre site www.grenouille888.org.
La mairie.